Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient à travers les ondes de nos 47 radios partenaires. Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 15 septembre 2021 et vous êtes en compagnie de Rukayat Abdraman pour l'édition de 17h. À la une de ce journal, la Journée internationale de la démocratie est célébrée ce 15 septembre. Que pensent les Nigériens de la démocratie, 30 ans après son avènement au Niger, à suivre leurs avis dans ce journal. La fièvre typhoïde et le diabète causent en moyenne 7 opérations et 4 amputations par jour au centre hospitalier régional de Maradi. Le chirurgien du centre tire la sonnette d'alarme. La Journée mondiale de la salubrité est célébrée ce 15 septembre. Dans la partie magazine, on parlera de recyclage et de compostage des déchets organiques avec un chercheur de l'IRD. La Journée internationale de la démocratie est célébrée chaque année le 15 septembre. Cette date choisie par l'Organisation des Nations Unies correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Elle pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques de et les fonctions d'un gouvernement démocratique. Que pensent les Nigériens de la démocratie 30 ans après son avènement au Niger? Écoutons leurs avis au micro de Moussa Hassan.
C'est l'interprétation que nous faisons de la démocratie qui n'est pas bien. Pour beaucoup, la démocratie, c'est l'anarchie. Jusqu'à présent, elle n'est pas bien installée chez nous.
C'est un processus qui est en construction. Les citoyens ne l'ont pas bien perçu, lié au poids de leur tradition, de la culture, parce qu'on a l'impression que c'est un régime d'impunité. Alors que c'est un régime qui est normé, qui a des règles, il faut le dire, elle est en construction, j'ai bonne foi que ça va changer.
La démocratie, ça fait 30 ans au Niger qu'on est en train d'expérimenter. Il y a eu beaucoup d'évolutions, on peut les dire, depuis l'avènement de la démocratie. Donc au niveau des mentalités, déjà les gens ont commencé à évoluer de leur manière de gestion, de pouvoir. Les choses sont en train vraiment de se dessiner comme on le souhaite. Il y a eu une première passation de pouvoir entre un régime démocratiquement élu et un autre. C'est la première au Niger, donc on pense que la démocratie est sur la bonne voie.
À Maradi, les complications de certaines maladies comme la fièvre typhoïde et le diabète provoquent des conséquences comme la mort au centre hospitalier selon Dr Diko Daouda, chirurgien. Chaque jour, ce n'est pas moins de 7 opérations qui sont réalisées pour cause de typhoïde et 4 amputations pour gangrène. Dr Diko Daouda lance un cri de cœur pour inverser la tendance. Il est au micro de Mohamed Mama.
Le problème qu'on a, ce sont les urgences chirurgicales. Et ces urgences-là, ce sont les péritonites par perforation typhique. Et ça, c'est un de nos grands problèmes ici. Le deuxième problème, ce sont les gangrènes. Vous voyez un monsieur qui a une fracture ouverte complexe, qui décide de signer une décharge pour aller faire le traitement traditionnel. Il revient 2 semaines après, c'est une amputation qui suit. Les patients avec des diabètes, avec des plaies diabétiques, continuent à faire un traitement traditionnel à la maison. Ils viennent à un stade terminal où on ne peut rien faire. D'une manière générale, on a une moyenne de 3 à 4 amputations par semaine, ce qui est alarmant. Les autres plaies, ils vont dire que c'est d'âge. Et on commence des décoctions, on amène le malade quand il est à un stade très avancé. Il y a des maladies qu'on peut prévenir. La fièvre typhoïde, on peut la prévenir par l'hygiène. Il y a tellement de péritonite, c'est plus que la moyenne du Niger entier. Les autres hôpitaux, ils ont une moyenne de 3 par semaine. Ici, on opère 8, 9, 10 par jour.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, à l'occasion de la proclamation des résultats globaux du bac 2021 au Niger, a déclaré que dorénavant l'accès aux grandes écoles pour les formations est conditionné par l'obtention du baccalauréat. Une manière de relever le niveau des élèves, un extrait des propos de Mahmoud Jibo, ministre de l'Enseignement supérieur, recueilli par Rafikat Taher.
Sus. Plus de 80 000 candidats, 7 seulement ont obtenu la mention très bien. 7 au-delà de 15. C'est quand même grave pour notre pays. Nous avons accumulé des reculs sur plusieurs années et avec ce taux de 22,75%, nous devons tous prendre conscience que notre pays est en danger, que l'enseignement supérieur du Niger risque de s'éteindre si chacun ne prenne pas ses responsabilités pour s'assumer. Je lance donc un appel. Tous les parents d'élèves, qu'ils aient été à l'école ou pas, qui s'investissent afin d'encourager les enfants à aller plus loin. De toutes les façons, nous n'avons plus le choix. Désormais, en tout cas après cette année, on n'ira plus à l'école normale avec le BEPC. On n'ira plus à l'INGS avec le BEPC. On va tout faire pour qu'on n'aille plus à l'ENA avec le BEPC. Puisque ceux qui y vont avec le BEPC ne comprennent même pas français. Quel genre de cadre on forme? Et ces écoles privées qui forment au niveau moyen, avec le BEPC, souvent même ça le BEPC, on va l'arrêter. Le Le bac sera désormais le premier diplôme pour l'accès à toute formation.
La commune de Doganduchi a organisé dimanche un forum sur l'éducation. Il fait suite aux résultats jugés catastrophiques enregistrés cette année par les élèves de la localité aux différents examens. La rencontre a consisté à une évaluation de la baisse du niveau tout en proposant des pistes de solutions. Boubacar Makidougou, maire de la commune urbaine de Doganduchi, au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Quand les résultats sont sortis cette année, ça a confirmé vraiment le problème de la baisse de niveau au niveau donc des écoles. Et c'est ça qui nous a poussé à créer une sous-commission éducation au niveau de notre conseil communal qui va spécialement travailler sur les questions de l'éducation. Mes ambitions finales, elles sont très simples. C'est-à-dire que je veux que le taux de réussite au niveau de ma commune soit des taux vraiment très satisfaisants. Je n'annoncerai pas un taux, mais moi, si j'ai 100%, ça ne me gênerait pas. Donc, je cherche à améliorer les résultats scolaires parce que vous savez que bon, les ressources humaines, c'est à la base. Et moi, je me suis dit qu'il est inadmissible qu'on dise quelqu'un qui a fait le CI, il est arrivé au CM2 et ne sait pas lire et écrire. Ça ne doit plus se passer comme ça. Quand tu rentres à l'école, au moins savoir lire et écrire. Donc vraiment, on va tenir à ça et on sera très présent dans les écoles pour que cette ambition-là soit réelle.
Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état d'attaque de criquets pèlerins dans la commune de Kao, région de Tawa. Selon Iba Chetima, directeur régional de la protection des végétaux, il s'agit tout simplement d'une fake news. La vidéo est du Kenya. Il est interrogé par Abdoulaye Aoussouk.
La vidéo qui avait circulé en réalité, c'était tout simplement du fake news. Et c'était une vidéo qui a été tournée au Kenya lors d'une invasion généralisée du criquet pèlerin là-bas. Donc on ne sait pas comment l'individu a rediffusé la vidéo dans les réseaux sociaux et a commenté que c'est une situation à chaos. Aussitôt qu'on a eu l'écho de cette situation-là, j'ai appelé le chef du district agricole de Kao, qui est le premier responsable qui est sur place. J'ai ensuite appelé le directeur de de l'agriculture de Tinta, donc pour leur demander qu'en est-il de cette vidéo. Donc aussitôt le directeur départemental s'est déplacé lui-même sur le village de Indama, le village en question, pour constater la situation. Donc à sa grande surprise, il n'y avait rien. Donc je rassure la population que la région de Tawa en ce moment-là n'est pas menacée par une quelconque invasion des criquets pèlerins.
Le département de Douchi dans la région de Dosso enregistre cette année moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs selon les responsables coutumiers. Cela est rendu possible grâce aux séances de sensibilisation menées par les chefs coutumiers. L'honorable Amadou Sabo, chef de canton de l'Arewa, au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, cette année, nous n'avons pas enregistré de cas majeurs notifiés. Cela est relatif aux séances de sensibilisation que moi-même, chef de canton de l'Arewa et le chef du groupement Peul, avons menées, action relayée par le représentant de l'État, le préfet. Il y a une loi qui définit la résolution de la situation en cas de conflit. Même les quelques cas survenus ont été rapidement solutionnés, soit au niveau du chef de village ou parfois même ici à la cour. L'appel que je réitère aux cultivateurs et éleveurs, c'est de rester en paix, que les éleveurs surveillent bien leur bétail afin d'éviter la traversée des champs, aux agriculteurs de ne pas se faire justice soi-même, l'affrontement ou tout autre acte pouvant entraîner une bagarre.
La région de Diffa est connue pour sa production du riz. Chaque année, c'est des tonnes qui sont produites dans les différents périmètres agricoles. Malheureusement, ces trois dernières années, cette activité est compromise par les inondations. Qu'en est-il cette année? Ibrahim Chetima, le secrétaire général de la coopérative Calcaria, répond au micro de Moussa Mani.
La culture de riz dans la commune de Diffa, tout va bien. Malgré que la population paysanne n'a pas pu exploiter le 70% de leur terrain à cause de la peur de l'inondation qu'elle en a vécu les trois années passées. Mais grâce à Dieu, les restants des coopératives qui sont dans les périmètres ont cultivé leur terrain. Et maintenant, les riz, certains sont à l'épuisement. Concernant la Ligue de l'Ada, tu sais, la Ligue de l'Ada, c'est elle qui alimente tous les champs qui sont hors périmètre de la commune de Diffa et hors Diffa même. Mais on a amené ce problème au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture. Il n'y a pas une autorité administrative au niveau de la commune de Diffa qui n'est pas informée. Parce que c'est indiqué qu'il y a une longueur à peu près de plus d'un kilomètre. Mais la partie qui est cassée, ça ne dépasse pas 25 à 30 mètres de longueur et profondeur de plus de 10 mètres, qui dépasse la capacité de travaux manuels de la population paysanne. Le problème maintenant qu'on fait face, c'est le problème de l'engrais. Parce que l'engrais maintenant, il faut partir au marché pour avoir l'engrais, à un prix de 12 500 à 19 000 francs.
On parle sport dans cette édition. La 24e édition de la Coupe du Président de la République de basketball débutée le 11 septembre regroupe les équipes de cette région du Niger. Les deux finales hommes et dames se jouent ce soir au palais du 29 juillet de Niamey. Boubacar Elhaj Amadou, secrétaire général adjoint de la Fédération nigérienne de basketball, fait le point au micro de Salamat Kadri.
En dames, nous avons 5 équipes. L'équipe de Dosso en dame et Telaberi en dame, plus 3 équipes de Niamey en dame. À messieurs, nous avons 8 équipes, dont une équipe de Zinder, une équipe d'Agadez, une équipe de Maradi, une équipe de Tawa, une équipe de Dosso, une équipe de Telaberi et 2 équipes de Niamey. Ça nous fait 8 équipes. Donc sur l'ensemble des régions, seul le Difa n'est pas représenté. Les 2 finales, nous aurons en dame l'équipe Team Momo qui sera opposée à l'équipe de Liberty Basketball Club. En dame, c'est 2 équipes de Niamey. En messieurs aussi, nous aurons 2 équipes de Niamey qui seront en finale.
C'est la partie magazine de cette édition. Le monde célèbre ce 15 septembre la journée mondiale de la salubrité. Celle-ci vise à fédérer toutes les énergies autour d'une action universelle pour une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. C'est dans ce sens que l'Institut de recherche pour le développement IRD de Niamey s'est engagé dans une logique de recyclage et de compostage de déchets organiques. Dr Seynibodo Bachirou, chercheur à l'IRD, explique le processus de cette transformation au micro d'Asmana China.
Le compostage, c'est cette transformation aérobique de tout ce qui est déchets organiques. Donc ces déchets-là, nous ne partons pas ailleurs les chercher. Nous restons sur place pour transformer donc nos déchets. Cette transformation, en réalité, c'est lié à la décomposition et à la minéralisation donc des déchets organiques par la macro-organisme, donc des sols. Nous avons par exemple les bactéries, les champignons, les actinomycètes. Et d'autre part, dans la macro-faune, nous avons donc les vers de terre et d'autres insectes qui effectivement vont contribuer à la fragmentation de tout ce qui est déchets organiques. Et le produit donc issu de la décomposition et de la minéralisation va libérer les éléments nutritifs d'intérêt pour les plantes. Nous avons creusé une compostière. Donc cette compostière-là, c'est le lieu qui héberge justement donc tout ce qui est déchets. L'idée, c'est de prendre des couches différentes. On coupe, on les fragmente et on les surimpose justement donc dans la fosse. On fait une couche. On va faire donc des couches successives des déchets organiques différents. Et lorsque donc la fosse sera remplie, on va arroser et on va donc le fermer avec une plastique noire pour pouvoir justement donc conserver la température et amorcer les phases de décomposition de la matière par les organismes des sols. Il faudrait arriver à chaque 2 semaines retourner, donc c'est-à-dire qu'on enlève les déchets là, donc tas par tas, on le retourne et on le remet justement dans la fosse. Et après, on arrose et on referme. Au bout de 2 mois à 3 mois, on aura ce qu'on appelle le compost.
Quelle utilisation faites-vous de ce compost ?
Sa finalité, c'est de l'utiliser pour déjà fertiliser nos fleurs, fertiliser donc nos arbres, les morangas que nous avons plantés et les dattiers pour permettre donc leur meilleure croissance. C'est une alternative pour ne pas utiliser les engrais chimiques, parce que les engrais chimiques, ils ont aussi leurs conséquences négatives sur l'environnement.
Est-ce que cette transformation des déchets peut être faite ailleurs, par d'autres structures ?
Alors, l'idée également, c'est que nous voulons inciter les structures, que ce soit les structures de l'État, du privé, ou bien les organismes internationaux qui sont implantés au Niger, de s'inscrire dans cette démarche-là. Parce que il y a des quantités importantes que nous produisons, et que si nous ne les valorisons pas, si on ne les recycle pas, ça devient donc un surplus en termes de déchets dans la ville de Niamey. Donc, nous incitons les structures-là à faire donc des compostières dans leur endroit, et puis recycler tout ce qui est déchets qu'eux le produisent. Et ça rentre directement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.